La musique.
Caravana de maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive mon pain, vive le soleil. Vive
les oreilles.
Vive.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, à Montreuil, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuse. Aujourd'hui, nous accueillons la compagnie Discobol. Bonjour Stéphane Waro, bonjour Théo Girard.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous avait reçu il y a quelques mois pour Transcabar. Super émission, super groupe également. Mais justement, aujourd'hui, on va s'intéresser à Transcabar, certes, en fin d'émission, mais aussi à tous les autres groupes dans lesquels vous jouez au sein de cette compagnie. Alors, on vous recevait à l'origine pour annoncer un concert qui aurait dû avoir lieu demain. Enfin, une série de concerts, une soirée, plus exactement, Disco Ball Party. Et je crois que c'est reporté.
Ouais.
Est-ce que vous savez quand ? Est-ce qu'il y a une date, une idée de...
A priori, on est en train de caler la date avec le théâtre, donc a priori c'est plutôt sur octobre, sur la rentrée.
Ouais.
Et on va peut-être chercher un moment, faire un événement plutôt dans la saison. On n'a pas encore calé les dates encore.
D'accord. Donc là, on va falloir patienter un petit peu. Alors, sur le coup, je me suis dit, mais ils font grève. ils protestent contre la réforme des retraites. C'est bien, mais en même temps, est-ce que ça... Non, c'est pas ça.
Il y avait manif, donc on a dit non, il y a manif, on ne fait pas la soirée.
Mais pourquoi pas.
Non, ça n'a pas de rapport.
Bon, rien de... Alors, peut-être on va parler de la création, de la... Alors, du coup, de la structure du label, de l'asso, je ne sais pas. Théo, raconte-nous l'histoire de Discobol.
Eh ben, donc c'est au départ une association créée en 2000-2001 pour gérer les concerts d'un groupe qui s'appelait Sextiledon et donc qui a donné son nom à l'asso. Donc ce groupe s'est arrêté quelques années plus tard et l'asso est resté en sommeil jusqu'à à peu près 2009-2010 où deux projets dans lesquels j'étais ont enregistré des disques. Et bon, la chasse au label, c'est vraiment compliqué à ce moment-là. Moi, j'en ai eu un peu marre et je me suis dit, tiens, pourquoi pas monter un petit label. J'ai posé des questions à droite à gauche à Didier Petit, à Claude Chamichian à l'époque. Il m'a dit non, mais c'est bien, c'est une bonne voie. Ça vous permet de vous placer aussi dans le monde de cette musique là quoi. Donc on a sorti deux disques de Nog et de Sibiel et on a aussi créé ce nom là qui était Discobol Records, qui pour moi collait bien avec l'idée de faire un label quoi, lancer des disques, c'est voilà.
Et donc vous êtes plusieurs directeurs artistiques comme on dit, je ne sais pas.
Ouais, artiste associé quoi.
Ouais, artiste associé. Mais oui, ouais. Alors justement, est-ce que parce que on va voir, on a la chance dans cette émission, on va voir que il y a plein de styles différents musicaux qui vont être à des esthétiques, comme on dit, qui vont être donnés à écouter. Ça, c'est super. Mais justement, c'est quoi la cohérence ? Est-ce que c'est avant tout, vous êtes potes, c'est un lien humain, ou est-ce qu'il y a une convergence artistique, esthétique, voire politique ?
Bah, au départ, on est camarades de. On était étudiants ensemble, quoi, pour la plupart. Après, on s'est rencontrés, il y a beaucoup d'amis. Donc c'est de l'amitié pour beaucoup de musiciens qui sont dans le collectif, quoi. Et puis...
L'esthétique assez large, c'est quelque chose qu'on aime assez. Ouais. Enfin, on fait des choses assez larges de toute façon, donc... Ça, c'est quelque chose qu'on a envie de défendre aussi, même si on ne le fait pas, enfin, c'est pas une décision, mais ça en fait partie, quoi. Enfin, de prendre des choses expérimentales et puis du rock ou du jazz.
Du Maloya.
Enfin, voilà, tout ça, c'est un truc qui fait partie de notre esthétique à nous, générale, quoi. Et puis, oui, pour l'instant, c'est surtout un réseau assez proche de musiciens avec les qu'on connaît, avec qui on a déjà travaillé. De temps en temps, on peut filer un coup de main pour sortir un disque. Voilà, on le fait, quoi.
Alors, on avait dû le faire, je ne me souviens plus bien, pour Transcabar, mais peut-être brièvement, parce que vous parliez que vous étiez rencontré durant vos études, votre formation musicale, en quelques mots. J'ai l'impression que toi, tu es plus rock, Stéphane, que jazz, non ?
Moi, j'ai commencé en autodidacte, la guitare et puis la musique. Enfin, j'avais pris des cours de piano étant petit, mais je n'avais pas accroché sur les cours et tout. J'aimais la musique, mais la formation ne m'avait pas plu. Et moi, j'ai appris la guitare avec les copains à l'école ou en jouant dans des groupes. Donc avec quelque chose de très rock. Oui, j'étais adolescent à l'époque, donc c'était Nirvana, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, et tout ça que j'écoutais, quoi. Et puis après, j'ai rencontré un contrebassiste de jazz à La Réunion qui m'a fait rentrer au conservatoire de La Réunion.
Ah, d'accord.
Du coup, c'est là que j'ai commencé le jazz, et puis j'ai fait le CIM, et puis après le conservatoire de Montreuil, là, dans un cycle jazz, quoi.
Oui, ok. Donc, c'est là que vous vous êtes rencontrés à Montreuil, j'imagine.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Et oui, justement, vous êtes attaché à cette ville de Montreuil, j'ai l'impression.
Ben, on y vit.
Ouais.
On y vit. Moi, j'y ai grandi. Enfin, donc, ça fait vraiment pas mal de temps que j'y suis. Il se trouve qu'on, en plus, on habite tout près. C'est un hasard, mais on habite vraiment tout près. On est voisins, quoi. Donc, voilà, il y a un truc de vie, quoi, de...
Mais c'est quoi ? Il y a un lieu en particulier ? C'est pas les instants chavirés ? C'est quoi ? C'est...
Non, bah alors esthétiquement pour le coup, on n'est pas trop proche, en tout cas dans ce qu'on pratique.
Ouais, ouais.
Tu vois. Mais après un lieu, bah il y a un lieu qui est dans lequel on a passé beaucoup de temps, qui s'appelle Aéry, qui est plutôt associatif, qui est pas forcément que musical. Il se passe plein de choses là-bas, qui est vers la Croix-de-Chavaux. On est en contact avec le théâtre municipal Berthelot aussi. Il n'y a pas un lieu, quoi, en tout cas en ce qui nous concerne. Hein.
Mmh. Okay. On a envie aussi d'essayer de... Enfin, il y a une volonté de développer quelque chose de local qu'on aime beaucoup et qu'on essaie, parce qu'on va jouer toujours à droite, à gauche, etc. Mais on aime bien aussi essayer de développer quelque chose, d'installer le label, la compagnie, dans quelque chose de très local où on vit avec les gens qu'on connaît, avec les gens... Voilà, c'est pas les mêmes rapports, quoi, du coup.
Et notamment avec les actions qu'on mène, oui. Que ça soit le Grand Marcel, qui est un orchestre amateur, et la chorale Transcabar, qui est liée au Maloya.
On y reviendra. J'annonce à Patricia qui fait la technique. On va écouter Nog avant. Mais j'ai une question avant. J'ai dit en boutade, comme une boutade au début, là, cette histoire de « est-ce que vous faites grève ?» Mais toutefois, j'aimerais, comme je sais que vous êtes quand même un peu... engagé, on va dire, j'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur le contexte social, si vous avez envie. Hein. Certains musiciens se posent la question de la façon dont ils pourraient intervenir. Faire grève n'a pas tellement de sens. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ?
Moi, je pense ça aussi. C'est vrai que moi, je suis globalement assez éloigné de toute l'actualité. Voilà. Mais évidemment, moi, ma sympathie va complètement vers les grévistes et puis surtout contre ce qui se passe à la tête de l'État, quoi. Après, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, c'est pas évident de savoir où se placer et d'exprimer une voix. En plus, c'est pas forcément notre voix. Enfin, moi, j'écris pas des textes, tout ça. Enfin, voilà, il y a aussi ça. Nous, on joue de la musique, on joue des notes. Ça véhicule, ça met dans des états, ça met dans des émotions. C'est ça qu'on recherche, donc c'est valable à tout moment, à tout instant, sur disque, sur internet, en concert, quoi.
Ouais.
Une action à proprement parler.
Ouais, c'est difficile de trouver une action qui a un impact.
Il y a des choses qui touchent. On voit des vidéos, tu vois, quand on voit danser les danseurs devant l'opéra, il y a des choses. Voilà, ça parle, quoi. Après,
ça peut être un concert en soutien.
Bien sûr, tout à fait. Ouais.
Je propose qu'on écoute donc ce groupe dont tu as parlé, Nog. Alors, peux-tu nous en dire quelques mots avant ?
Bien sûr. Nog, ça a été monté en fait par Nicolas Naudet, avec qui on était au conservatoire tous les deux.
Ah d'accord.
Et il a écrit la plupart des morceaux de ce groupe-là. C'était un trio qu'on avait avec Stéphane et lui. Et donc clarinette, basse, guitare électrique et contrebasse. Et on a fait un album qui est sorti en 2010, réalisé aussi par Nicolas et Michel Casabianca, avec un peu d'effet. Il n'y a pas que il y a un peu d'habillage aussi sonore là-dessus. Il y a un travail.
C'est la première sortie de Disco Ball.
Ouais, c'est ça. C'était le disque avec Cibiel. Ouais, ils sont sortis en même temps, le même jour, à l'atelier du plateau à l'époque.
On écoutera Cibiel tout à l'heure. Donc, je vous propose d'écouter Nog.
Thank you.
Voilà, c'était Nog. Parlons un petit peu de CBL maintenant. Est-ce que tu peux, Théo, nous présenter ce groupe, tout simplement?
Ouais. C'est un autre trio avec un violoncelliste qui s'appelle Jean-Philippe Face et un guitariste qui s'appelle David Potorazel et moi à la contrebasse. C'est le plus vieux groupe du label et puis de la compagnie puisqu'il a été créé en 2000. À l'époque, il y avait Thierry Fournel à la guitare. Et même en nombre de disques, c'est celui qui a fait le plus de disques. Et ces derniers temps, c'est Jean-Philippe Face, hein, le violoncelliste qui a fait beaucoup de ciné-concerts et qui a écrit pas mal de musique pour ça. Ouais. Et donc ça a été notre activité ces dernières années, quoi.
C'est de la musique composée uniquement ?
C'est assez composé, ouais. Ouais. Surtout là, les derniers projets, c'est vraiment Jean-Philippe qui est.
C'est lui qui compose.
Ouais.
Ouais, ça fait un peu musique de chambre, je sais pas si. Le temps, ouais. Ouais, c'est un peu. Je sais pas si. J'ai lu que l'esthétique du groupe avait évolué par rapport au départ.
Tout à fait.
Au départ, alors.
Bah, c'était musique de l'Est, musique même carrément roumaine. C'est-à-dire que Thierry et Jean-Philippe étaient partis en Roumanie, sont revenus avec pas mal d'enregistrements, et puis moi. En fait, donc mon père a beaucoup pratiqué cette musique-là, avait des bouquins. Donc j'ai sorti quelques thématiques, et puis on a bien trippé pendant pas mal de temps là-dessus. Ouais. Et puis à un moment, on a voulu aller plus vers l'impro, puis d'autres choses. Et puis c'est là qu'on a plus développé le groupe.
Mais alors j'ai découvert que effectivement ton père était un des créateurs de Bratsch et que toi-même t'en as fait partie.
Ouais.
Ah mais je savais pas du tout ça. Quelques mots sur cette expérience donc ça.
Ben moi c'était jusqu'à ce que ça s'arrête. Moi j'ai toujours baigné dedans puisque le groupe a été créé en 73. Moi je suis né en 78. Et j'ai fait les quatre dernières années du groupe de 2011 à 2015 quoi. Ouais. C'était forcément un exemple pour moi parce que c'est des gens qui sont tombés amoureux de plein de musiques différentes. Et qui ont plongé dedans, et ils étaient cinq, tu vois, et ils sont pas tombés amoureux des mêmes musiques les uns. Ouais, donc ils ont tout partagé jusqu'à faire une musique qui leur appartient. Enfin, il y a des musiques balkaniques qu'ils ont quasiment amenées en France, enfin, dire qu'ils ont été les premiers à jouer ici. Après, il y a eu des orchestres traditionnels là, qui étaient incroyables, mais voilà une super démarche qui m'a forcément marqué. Et puis surtout, moi j'ai su. Alors que j'étais perdu en fac de physique-chimie, j'ai su qu'il y avait ce truc-là qui était possible. C'est-à-dire que j'avais l'exemple que ça pouvait marcher. Même si moi, je savais pas encore que j'allais faire ça, mais j'avais ça dans un coin de ma tête, quoi.
Ouais. Alors, tu parlais des ciné-concerts. Ça m'intéresse en ce moment. Et je voulais savoir, peux-tu parler de cette recherche de Jean-Philippe autour de ces films d'amateurs du Limousin, ça m'a intrigué.
Ça c'est super parce que il est originaire de Limoges et on lui a proposé de fouiller dans les films amateurs et pas que amateurs mais en tout cas dans tout le répertoire qu'il y a parce que la Cinémathèque du Limousin collecte, restaure et du coup après lui il a pu piocher là-dedans, il a fait son propre montage et donc il a fait un film. Et il a créé la musique qui allait avec. Et donc, on voit les usines de porcelaine, on voit le Tour de France dans les années 30, je ne sais pas quoi. On voit plein de moments, parfois vraiment très, très anodins, et puis d'autres, des moments d'histoire, quoi. Et donc, ça fait un film dont il est quasiment, pas l'auteur, mais enfin, dont le monde, voilà.
Oui, le monteur. En
fait. Ouais.
Ouais. Est-ce que vous avez des idées sur le ciné-concert, cette forme qui est, encore une fois, j'ai dit la semaine dernière, mais qui est à mon avis malmenée, maltraitée, c'est mal traité. Pendant longtemps, on a eu des films muets du répertoire, et puis les mecs improvisaient dessus. Bon. Est-ce que vous avez d'autres idées concernant ce rapport entre musique et image?
Ben, en tout cas, par rapport à moi, mon expérience dans CBL, et celle par le biais de Jean-Philippe, c'est que lui, il écrit, il a pris le parti, quel que soit le film, d'écrire. Et donc, c'était vraiment au cordeau à chaque fois. Tu vois, donc, lui, il est sur le film. Nous, David et moi, c'est lui qu'on regarde, c'est pas le film. Parce qu'il nous fait des tonnes de signes et tout ça. C'est sa manière à lui de composer pour ça. Et après, je sais pas si tu connais le festival d'Aner, au sud de Toulouse. Un festival en fin mai, début juin qui est incroyable, donc sur plusieurs jours où c'est que du film muet et c'est bourré de musiciens parce que du coup ça joue et c'est super, on l'a fait plusieurs fois, enfin lui l'a fait plusieurs fois Et c'est super parce que du coup, tu vois les créations de chacun. Ouais. Et en fin de journée, ça joue partout, dans tous les sens. Donc, beau moment, tu vois. Et justement, un endroit où c'est bien traité.
Ah oui, tu peux redire où c'est ?
Le festival d'Aner.
Aner, donc fin mai.
Ouais,
fin mai. C'est noté. Je propose qu'on écoute Sibiel. Alors, je ne sais pas quel morceau c'est.
Moonshine.
Très bien.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui au label, à la compagnie Discobol, avec Théo Girard et Stéphane Oharo. Pardon, j'ai un petit blanc là. On va parler de girafes. Et bah, justement, Stéphane, peux-tu nous présenter qui est Alain Peters ? Qui il était ?
Alain Peters, c'est un chanteur, poète réunionnais qui a commencé à La Réunion dans les, en faisant des balles. En fait, c'est le gars qui a amené, pour faire vite, c'est le gars qui a amené le rock à La Réunion dans sa jeunesse, en fait, qui a amené le rock dans les balles réunionnais. Ouais. Et du coup, c'est assez vite devenu une star pour ça. Y a beaucoup de gens qui le suivaient quand il jouait là-bas. Les gens couraient quand il y avait un bal avec Alain Peters. Et puis, ça a mal tourné dans sa vie personnelle. Il est devenu junkie, quoi, en gros. Et puis, il a fini à la rue. Et il a écrit des textes à partir de là. En fait, ce qu'on voit dans ces textes, c'est la vision de la rue, en fait, ah de oui, la société, oui. Mais à partir de quelqu'un qui est dans la rue. Et c'est devenu une icône de la musique réunionnaise pour ça, pour la poésie et puis pour la musique aussi qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il apportait quelque chose de vraiment très, très original, très sincère. Et il y a heureusement un professeur de physique ou mathématiques, je ne sais plus, qui a réussi à le choper pour enregistrer une cassette sur un 4 pistes. Ouais. Et qui a eu du mal à le faire parce qu'il était alcoolique, donc il allait boire du rhum le matin à la boutique et puis il ne revenait pas pour l'enregistrement. Ouais. Et il a réussi à enregistrer sur un 4 pistes cassette la Love d'Alain Peters. Et puis quand ça allait mieux, il a aussi enregistré avec Loy Elrich les maquettes qu'il voulait relancer sa carrière officiellement. Et du coup, c'est les œuvres d'Alain Peters qui sont monumentales, en fait. C'est la démo avec Loy Elrich et puis cette cassette là avec
qu'on trouve sur internet. Hein, je l'ai écouté hier.
Oui. Bah après l'album est sorti après sa mort. Ouais. C'est-à-dire que le Takamba, qui est le label réunionnais, a fait la collecte de tout ça. À mixer, à masteriser et à sortir un album qui s'appelle Paraboleur avec ces morceaux-là. Ouais. Et c'est un album magnifique.
Ouais. Ça, c'est, oui, vraiment, et puis original.
Ouais, extrêmement. Et du coup, à La Réunion, c'est un. Et puis un peu, maintenant, il est connu partout maintenant, mais c'est une icône, quoi. C'est notre Jacques Brel à nous, quoi.
D'accord. Mais alors, Girafe reprend les chansons de Alain Peters ou composez-vous sur ses textes ? C'est ça que je ne situe pas, moi.
Alors Girafe, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écouté beaucoup l'album et puis on a tout mélangé, on a gardé des choses et puis on a en même temps fait de la musique originale et on a mélangé tout ça, en fait. Donc c'est pas la musique d'Alain Peters qui est derrière, même s'il y a des citations de temps en temps. Il y a des choses sur certains morceaux qui vont revenir très fortes. Et les textes, moi, je les ai traduits en français, du coup. Et Bruno Girard les a adaptés pour les dire.
Ouais.
Voilà.
Ah oui, alors c'est ça. Comment s'est constitué, pardon, le line-up et notamment le choix de Bruno Girard pour dire les textes ?
Et bah, le line-up, c'était Nog. On avait envie de faire un nouveau projet. On cherchait un nouveau projet. Et du coup, moi, j'ai proposé de travailler sur Love d'Alain Peters. Ouais. Il nous fallait un batteur. Et puis Théo, il jouait avec Eric. Du coup, il l'a proposé à Eric et ça a tout de suite plu à Eric. Et puis l'équipe s'est faite très humainement tout de suite. Et puis, qu'on allait faire un premier concert, je crois, un des premiers trucs qu'on allait faire, il y a Bruno qui a dit « Ah, mais moi, ça m'intéresse de dire les textes. » Tout ça, on a dit « Mais ouais !» Et puis voilà. Ouais. Et puis c'était parti. Ouais.
Mais alors pourtant, Bruno, il parlait pas créole, j'imagine, à l'époque. Donc comment ça, c'est toi qui lui as appris à dire les...
Bah, il la majorité des choses, il le dit en français.
Oui, mais quand même.
Après, il y a des petits passages en créole. Oui, là, c'est moi qui lui ai dit comment ça se prononçait. Etc. On a bien rigolé en faisant ça.
Ouais. Alors, quelque chose aussi, j'entends et je lis aussi que c'est plutôt le choix d'une musique rock pour un groupe. Pour quelle raison ? Puisqu'on sait que vous excellez par ailleurs dans le Maloya. Pourquoi avoir. Dans une forme contemporaine du Maloya, pourquoi avoir choisi justement une esthétique plus rock pour justement adapter les textes d'un gars de La Réunion, quoi ?
Bah parce que c'était l'esthétique du groupe qui s'est faite en jouant, en fait. Et puis, contrairement à Transcabar, Jean Didier, il vient vraiment de la musique traditionnelle. Ouais. Et puis c'est le travail, il est vraiment sur la musique traditionnelle du Maloya, c'est-à-dire la culture ancestrale en fait de ce truc-là. Là, Alain Peters, c'est lui, il a amené quelque chose de très ouvert justement, Alain Peters. Ouais. Et du coup, nous, on avait envie de continuer ce truc-là aussi, et puis ce qui fait partie de notre esthétique aussi, de développer. Du coup, on a cherché dans cette esthétique. Mais voilà, l'esthétique, en même temps, elle s'est faite avec le groupe, en jouant, en répétant. On n'a pas écrit grand-chose avec Giraffe. On a surtout joué.
Ouais, d'accord.
Il n'y a pas de partition, quoi. Mais,
J'ai lu qu'Alain Peters aussi avait joué dans des groupes de rock progressif.
Ouais.
Donc, c'est pas, effectivement, ce n'est pas le Maloya traditionnel. On est loin de là. Et quel est l'avenir du groupe, alors? Est-ce que vous serez toujours au service? Est-ce que le groupe continue, d'ailleurs, pour commencer? Et si tel est le cas, est-ce que vous serez toujours au service des textes de Alain Peters, ou il y aura d'autres formes, d'autres sources d'inspiration?
Bah, Giraffe, non, ça s'est arrêté parce que le batteur est décédé l'année dernière.
Ah, d'accord. Ouais.
Du coup, on a pris la décision de pas continuer, pas de le remplacer, en tout cas pas continuer le groupe sous cette forme-là, quoi. S'il se passe quelque chose, ça sera, je ne sais pas comment, mais a priori, non. Giraffe, on a arrêté le.
Et vous ne deviez pas jouer demain ?
Si.
Alors ?
En fait, on réunissait Nicolas, Bruno, Stéphane et moi. Et comme dans la soirée, il y avait de toute façon Yannick, le batteur de Transcabar, et puis Bertrand Lafarge de Dismissed, on aurait fait. On avait envie de jouer. Parce que du coup, on n'a pas joué depuis des lustres. Ouais. Donc, on avait envie quand même de jouer, et puis en plus d'avoir des invités, puisqu'on était 17 sur scène. Ouais. Donc, c'est ça qui était prévu qu'on fasse. C'est qu'il y ait Giraffe, en tout cas, ce qu'il en reste, et puis pas mal d'invités, quoi.
Ça se fera la prochaine fois.
Ouais.
Avec plaisir. Alors, on écoute, je propose qu'on écoute Giraffe. Je sais pas, le morceau, c'est quoi ?
C'est L'ami que j'aimais bien.
D'accord.
Cette nuit, si vous me voyez boire, c'est peut-être pour que j'oublie que le lendemain qui foire. Moi, je ne crois plus dans la gloire, où les vedettes grouillent. L'eau du perchoir, même pour se casser les reins. Moi, je ne crois plus dans la gloire. C'est comme l'étoile qui brille quand arrive le soir et qui fond le matin. Moi, je ne crois plus dans l'ami que j'aimais bien, bien plus que ma famille. Il m'a laissé tomber comme un chien. Moi, je ne crois plus dans l'ami qui s'en va, qui revient, qui me mange le cœur comme si c'était du pain. Moi, je ne crois plus dans l'amour, mais je me souviens très bien quand il a fait son tour chez moi qui n'avait rien. Moi, je ne crois plus dans l'amour, il fait trop mal au cœur. Il dit c'est pour toujours, et un beau jour, il meurt. Pourtant, je garde l'espoir, même si le temps est lourd. Ça ne m'empêche pas de croire que bon Dieu n'est pas sourd. Aussi je veux bien croire qu'il m'a joué un tour. Sinon, pourquoi le soir, je rêve qu'il y a l'amour. We'll be right back.
Alors on va parler de Dismiss, Stéphane. Est-ce que tu peux nous présenter ton acolyte puisqu'il s'agit d'un duo? Comment vous êtes-vous rencontrés et pourquoi un duo d'ailleurs?
Alors Dismiss, c'est avec Bertrand Lafarge. Je crois que Bertrand, c'est le premier musicien que j'ai rencontré quand je suis arrivé à Paris il y a 20 ans. J'ai rencontré en faisant un concert, un des premiers concerts que j'ai fait à Paris, et puis c'était lui à la batterie, puis on a sympathisé, on a bien rigolé ensemble. Du coup, on a fait pas mal de groupes ensemble. Et Dismiss, bah, c'est un duo parce qu'on a fait une première session. Une session comme ça, informelle, tous les deux. On sortait de travailler en trio avec un saxophoniste, le groupe d'un saxophoniste, tout ça. Et puis, on s'amusait avec des boucles à créer une espèce de musique comme ça. Mmh. Et en réécoutant l'enregistrement de cette session-là, on s'est dit « Ah ouais, c'est super et tout ». Puis moi, j'avais envie d'écrire pour une forme live aussi des choses là-dessus. Donc voilà, le duo a commencé comme ça. Et puis on a, du coup, on avait une séquence de boucles qui était faite en live. Et puis le guitare-batterie qui jouait autour. Et puis ça s'arrêtait, ça recommençait, oui. Ça repartait dans l'autre sens et tout. Ouais. On a fait pas mal de concerts à la sortie du disque. On a dû en faire une vingtaine, une trentaine quand même.
Ah d'accord. Ouais. Donc les boucles, tu les fais en direct, enfin, je joue avec des pédales et machin.
Ouais.
C'est pas un truc préenregistré ou...
Non, du
tout. Tu joues en direct, ouais. Ouais. Alors, il y a des titres en anglais et je me demandais si c'était pas en référence à un style musical qu'on pourrait appeler garage.
Ouais, c'est ça. Bah, on était vachement là-dedans.
Bah ouais,
ça on en est toujours. Moi, j'aime toujours ça. Mais
Ah oui.
Il y avait ça comme grosse influence, oui. Et puis on aimait beaucoup aussi un groupe qui s'appelle Dirouf.
Ah oui. D'accord. Ouais.
Voilà. Et puis les films de Jim Jarmusch aussi. On a pas mal regardé ça tous les deux ensemble. Et puis on s'est changé les films.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Et alors, est-ce que vous auriez dû jouer demain aussi? Est-ce que vous êtes encore en activité?
Alors, on est en pause, ouais. De fait, parce qu'on a pas mal de choses à faire, lui et moi.
Ouais, oui.
On a discuté de voir comment on pourrait refaire un nouveau programme ou reprendre les choses et tout. Mmh. Et aussi techniquement, parce qu'à un moment donné, on avait fait une session assez longue au Chat Noir, là où... Toute une saison, on jouait une fois par mois. Et ouais. On a invité plein de gens soit à jouer avec nous, soit à jouer aussi en coplateau. Et du coup, on a invité des bassistes, des guitaristes en plus. Et toutes ces formes-là nous ont vachement plu aussi. Donc on se pose la question si on reste en duo, avec des boucles, ou si on évolue aussi, si le groupe il évolue. Et voilà. Donc mais en même temps, on n'a pas forcément énormément de temps à y consacrer pour le moment. Quoi. Mais...
Pas mal d'activités.
Ouais.
Bah, je propose qu'on écoute Dismiss. Alors, peut-être le nom du morceau, c'est...
Into Separate Cup.
Yeah. We'll be right back. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire, l'émission Les Oreilles Libres, et nous parlons aujourd'hui de la compagnie Discobol et du label discographique également Discobol. Je voudrais savoir comment vous concevez la sortie d'un disque. Avez-vous la main sur tout le processus de création, ou est-ce qu'il est possible qu'un musicien vienne vous voir avec une œuvre finie et vous dise bah, j'aimerais bien le sortir sur votre label?
Bah, récemment, c'est arrivé, ouais. Ouais. Ça, alors qu'au départ, on était plutôt dans les groupes. Mmh. Là, du coup, il y a deux sorties plus ou moins assez récentes, hein, Unklar et Tuning, qui sont dans ce cas-là, ouais, des personnes qui est, enfin, des groupes dans lesquels on joue pas.
Ouais.
Mais pour faire vite.
C'est ça. D'accord.
Oui, tout simplement.
On est dans du micro label, quoi.
Ouais, ouais. Mais alors, du coup, vous n'avez pas le regard sur ce qui se produit, quoi. Esthétiquement, je veux dire.
C'est des gens dont on est proche. C'est oui. Des gens dont on aime le travail. Ouais. C'est donc Nicolas Stéphane d'un côté pour Unklar et Olivier Lété pour Tuning. Ouais. Voilà, on aime vraiment ce qu'ils font. On les a, c'est pas non plus par hasard. C'est pas juste parce que c'est des potes, quoi.
Ouais. Et est-ce que vous avez donc les groupes dans lesquels vous jouez, un studio d'enregistrement attitré, ou est-ce que ça peut se faire un peu n'importe où?
Ça s'est fait un peu au gré des groupes, pour le studio. Et puis là, on est allé à Château Arnoux au mois de juin l'année dernière.
Avec Transcabar.
Avec Transcabar, pour faire un concert là-bas. Mmh. Et la salle s'appelle le Théâtre Durance. Et du coup, qui nous a proposé, pour le label, ils ont un studio d'enregistrement. Et qui nous a proposé un partenariat pour le label pour venir enregistrer nos nouveaux projets.
En fait.
Donc on a eu des sur cette saison, on a eu trois périodes en fait pour trois groupes différents. Il y a eu Sibiel qui est parti enregistrer son prochain album, Transcabar on a enregistré le prochain album, et puis il y aura un quintet Maloya qui va enregistrer là aussi. Du coup, il y a ce partenariat qui a un gros coup de main sur la production des albums, parce que ça coûte très cher.
Mais
et,
oui.
Et voilà, on espère pouvoir renouveler ce partenariat. En tout cas, c'est une super occasion pour les projets qui sont là, parce que surtout, on peut passer un temps assez long en studio, ce qui n'est généralement pas le cas. Donc là, on y passe une semaine, on dort sur place, on a toute la journée pour enregistrer, il n'y a pas de stress, de pression, de machin. Donc, après, sur le graphisme des pochettes, on le fait nous-mêmes.
Oui, c'est ce que je voulais demander, est-ce que vous portez attention à l'objet, le disque en tant qu'objet?
Oui, beaucoup. Théo avait commencé à faire les pochettes sérigraphiées à la main, sur des pochettes carton. Mmh. Du coup, ça donnait des exemplaires uniques à chaque fois, en très petite quantité. Et puis là, on est passé sur un truc plus industriel, parce qu'on travaille en même temps avec différentes, qui est la distribution du label, qui du coup met les disques en magasin, et c'est plus compliqué à faire des éditions sérigraphiées collector, même si on en a placé. Tuning il l'a pris, Giraffe il l'a pris, et voilà, après c'est du temps, c'est de la manutention, c'est pas la même, voilà, c'est pas le même temps en fait de travail dessus.
C'est ce que vous entendiez, je vous ai pas posé la question tout à l'heure, mais sur votre site vous parliez d'un label artisanal, c'est un des...
C'était l'idée de départ, oui. Après, c'est vrai que c'est pas toujours possible dans tous les cas de garder ce côté artisanal, parce qu'il prend du temps, parce que voilà, c'est un gros investissement, quoi. Mais bon, ça donne des beaux objets en plus.
Oui. Alors à côté de ça, vous avez aussi possibilité d'acquérir vos œuvres sur Internet, j'imagine.
Ouais. Oui. Ouais. Et c'est le boulot de la distribution qui s'occupe en fait de la distribution physique des disques physiques et du digital aussi. Donc ils placent le catalogue du label sur toutes les plateformes, machin. Ouais. Et puis nous, de notre côté, on a une page du label indépendante qui est sur Bandcamp.
Oui, c'est ça.
Qui nous permet de vendre en direct aux gens que ça intéresse, aussi bien physique ou digital.
Et alors, peux-tu nous parler de Tuning, de ce qu'on va entendre maintenant?
Alors Tuning, bah, c'est Olivier Lété, c'est un solo de basse. L'idée de son disque, c'était de travailler sans effet, juste avec ses deux amplis, sans effet, sans rien, et de travailler sur l'accordage de la basse, c'est-à-dire qu'il la désaccorde, qu'il la remet dans tous les sens. Ouais. Il commence le morceau et puis il joue un morceau et puis il bouge en même temps les, ouais, les clés de la basse électrique.
Quand même, alors je l'ai vu en live, mais je ne sais plus si c'est le cas pour le disque. Il a quand même des effets, mais ils sont derrière lui, donc il n'y touche pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'il les a réglés,
il
c'est le jeu, tu vois, qui fait que si t'as plus fort, du coup ça fait jouer la pédale ou pas, tu vois. Ouais. Donc je pense que sur le disque c'est pareil, mais en tout cas il enclenche pas les trucs.
Ouais. Ah bah écoute, je suis curieux d'entendre ça.
C'est quand même un bassiste qui a un son incroyable.
Oui, oui.
Ouais.
J'ai un peu entendu hier, mais là on va écouter, on va faire écouter à nos auditeurs. C'est donc Tuning Olivier Letté. Alors, on va parler d'une autre sortie, donc tu l'as un peu évoqué, Stéphane. Il s'agit de Unklar. Peux-tu nous le présenter ? C'est Théo, alors.
Je prends le relais. Donc, Unklar, c'est un groupe de Nicolas Stéphane, avec qui moi j'avais beaucoup joué il y a quelques années dans son précédent groupe qui s'appelait Le Bruit du Cygne. Mmh. Et là, Unklar, c'est un quartet. Il y a Fanny Ménégoz à la flûte, Benoît Joblot à la batterie et Antonin Rayon à l'orgue. Et donc Nico, il joue du sax ténor. Voilà.
Et donc ça, c'est une sortie de, c'est une des dernières sorties du label Disco.
Ouais, bah c'est ça a 2 ans quoi. Enfin, on est en 2020, donc ça a peut-être 3 ans maintenant. Mais c'est pareil.
Et bah, je vous propose d'écouter Unklar. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres consacrée au label Disco Ball. Alors on vient d'écouter Unklar. Et parlons maintenant de Théo Girard. Théo Girard, je voudrais savoir quels sont les camarades qui jouent avec toi dans le trio puis dans le quartet. Théo Girard, quartet, ouais. Trio.
Du coup, je l'appelle Bulle, quoi, maintenant. Mais...
Et voilà, c'était ouais. Ma question d'après. Ouais.
Ouais. Ben, donc, à l'origine, le trio, c'est Seb Rochefort à la batterie et Antoine Bergeau à la trompette et au bugle. Et dans Bulle, j'ai ajouté Basile Naudet au sax alto.
Ah, l'ami Basile. L'ami donc Basile. Bulle, maintenant, c'est le nom du Théo Girard Quartet.
Ouais, je préfère appeler ça Bulle que...
Ouais.
Voilà.
Avant qu'on commence l'émission, j'avais entrepris de vous parler du jazz, mais je ne sais pas trop comment tourner ça. Mais voilà, je me demandais si c'était toujours novateur comme musique.
Oh bah écoute, y a plein de jazz, il y a plein de gens qui font des choses assez nouvelles. Hein. Après, bon, il y a des esthétiques, donc t'accroches pas. Selon, ça c'est très compréhensible, mais bon, c'est quand même une musique qui reste pour moi assez vivante, selon qui la joue, et puis voilà.
Ouais.
Après, c'est intéressant, tu vois, de pas rester cloîtré dans un style, je pense, moi.
Ah bah oui, je pense.
Et dans une équipe, tu vois, d'aller chercher ailleurs, d'aller rencontrer des nouvelles personnes.
Je pense qu'avec l'émission, on aura compris que c'est pas votre truc de rester dans un style. Et peut-être, on a écouté en début d'émission Pensée Rotative, qui est un projet qui est la suite, ou je sais pas comment dire, de ton trio, de ton quartet. Est-ce que tu peux nous expliquer le dispositif qui est quand même assez particulier ?
Ben, l'idée, c'est de mettre le trio justement au milieu d'une salle et de l'entourer du public. Mais on entoure ensuite le public de 12 soufflants, donc 4 trompettes, 4 sax alto, 4 sax ténor.
Ouais.
Et bon, la liaison, c'est que le répertoire est sensiblement le même entre le trio et Pensée Rotative, avec des arrangements qui emmènent les morceaux complètement ailleurs. Enfin, du coup, j'ai recomposé un peu la musique, et puis qui est aussi habitée par 15 personnes et qui sont toutes ces personnes sont et improvisatrices et même compositrices pour la plupart, donc qui amènent complètement leur grain là-dedans. Et ça donne, voilà, ça pour, en plus, pour moi qui suis au milieu de l'orchestre, c'est là où ça sonne le mieux.
Et donc, ça, j'imagine, c'est des salles particulières, ça ne peut pas se faire en frontal.
On l'a créé au comptoir, donc à Fontenay, qui est une petite salle, en fait. Donc, on a quand même mis des gens au milieu, et puis il y avait des gens qui rentraient, qui rentraient pas, mais en fait, ça sonne bien, même dehors. Et ça pourrait très bien jouer sur un plateau, un grand plateau, mais avec des gens dans un gradin qui pourraient profiter totalement de la musique.
Ah oui, d'accord. D'accord. Mais alors, c'était quoi le but de le dispositif dont tu parlais ? C'est le fait d'avoir le trio au centre et les autres soufflants entourant le public. Qu'est-ce que tu recherchais comme...
L'idée, c'est d'ajouter une dimension à l'écoute. Quoi. C'est d'immerger les gens et vraiment... d'imaginer quelqu'un qui est pas très mélomane mais qui soit dans une écoute vibratoire, tu vois, de la musique et qui rentre complètement dedans, quoi.
Alors tu sembles habité par cette histoire de rotation là, parce que je veux savoir où se situe Rototone. Peux-tu nous parler de cette ville ?
Ça, c'est j'ai trippé sur ce morceau-là en me disant qu'est-ce qu'il représente, quoi. Parce que souvent, les morceaux, je les écris, leur nom, c'est des dates.
Ah oui,
tu vois ? Ouais. Du coup, les icos en studio, ils disent, mais c'est quoi ce morceau, tu vois ? Donc, vraiment, c'est pas très trippant. Mais c'est après, en les écoutant, en les réécoutant, que je trouve les titres. Et celui-là, j'ai trippé, je me suis dit, c'est une ville ronde, tu vois, mais qui a qu'une seule route. Et la route, elle part de l'extérieur, et puis elle fait comme une coquille d'escargot, tu vois. Et puis, t'es obligé de faire tout le chemin pour arriver au centre de la ville, quoi. Il n'y a pas de raccourci possible. Donc, c'était tout ce truc-là, un long cheminement, quoi. C'est ce que j'imagine pour ce morceau. Donc, c'est une ville qui reste à construire.
Je voulais parler un petit peu des actions que vous faites, des actions pédagogiques, je ne sais pas si c'est le terme est juste, enfin des actions avec des gens tout simplement. Et j'ai eu la chance de voir le Grand Marcel au Théâtre Berthelot et j'étais vraiment impressionné quelque part parce qu'il y avait dans les musiciens, il y a des enfants, il y a des ados, il y a des adultes, il n'y a pas de barrière on dirait.
Ah bah non, c'est le propos de départ, c'est ouvert à tous donc, et à toutes. Donc il y a des ça est de 10 à soit je sais pas peut-être maintenant il y a des nouveaux arrivants là cette année à 65 ans peut-être je sais pas
D'accord. Mais alors vous travaillez sur quel type de musique et surtout de quelle façon?
Mais tu sais moi je recycle hein, c'est le même répertoire. Ouais, le trio Pensée Rotative Grand Marcel c'est le même. Après ce qui est super drôle pour moi c'est de l'adapter. Il y a plusieurs je me retrouve maintenant avec quatre arrangements du même morceau. Voilà, pour des gens, soit qui ne lisent pas du tout, donc apprendre les lignes à l'oral, ou des partitions simplifiées, ou des arrangements simplifiés, voilà, moins de parties, parce que pour ces rotatives, c'est des morceaux d'un quart d'heure, c'est des suites, quoi. Donc, le Grand Marcel, c'est ça, c'est une espèce de condensé de ces morceaux-là.
Mais c'est vraiment de qualité, moi j'avais été surpris pour...
Ça joue vraiment bien, c'est chouette.
Avec les petits mômes qui
sont... Non, et puis ce qui est chouette, c'est que parfois, il y a le petit Yema qui a 10 ans qui joue au clavier, et puis qui... je lui dis d'improviser, et il dit non, je veux pas. Et puis finalement, il le fait, et puis tout le monde le regarde, parce que c'est super, quoi, tu vois. Donc il y a plein d'idées, et puis il y a des expériences différentes, donc ça brasse bien, c'est super. Ouais. Et c'est vraiment dédié aux gens qui n'ont pas l'occasion de jouer en groupe. Et là, pour moi, c'est vraiment réussi à ce niveau-là. Il y a des gens qui jouent en groupe, mais c'est de proposer ça, tu vois, des gens qui ont une pratique, tu vois, qui bossent des morceaux dans leur coin. Et là, c'est leur proposer de jouer en collectif.
Il y a une idée pédagogique, en fait, tu as une technique pédagogique, je sais pas comment.
Non, au départ, je suis vraiment pas pédagogue, c'est pas mon truc. Là, ce qui m'aide, c'est que le propos, c'est la musique, quoi. C'est les morceaux que j'amène.
Ouais. Et toi Stéphane, parce qu'il me semble que tu fais des choses aussi autour du Maloya.
Oui, avec Jean Didier, on travaille sur une chorale Maloya. On travaille sur le répertoire Transcabar, et puis c'est une espèce de workshop en fait, où on travaille les voix, on apprend les textes aux gens, on leur apprend les paroles, les mélodies, etc. Et puis après, on travaille différentes voix, et puis c'est en évolution aussi, de plus en plus. L'idée c'était... Avec Transcabar, on a fait pas mal d'actions culturelles, et puis on en fait pas mal avec des salles, mais toujours pareil, assez éloignées. Et là, avec notre expérience d'Aéry qu'on a eue, où on faisait des ateliers spécifiques pour les gens qui étaient en difficulté, on a eu envie de créer nos propres ateliers et puis de les ancrer dans un côté très local, Montreuillois, là où on habite, là où on machin, et puis proposer ces actions-là, quoi. Aux gens. Et puis ce qui est chouette, c'est que ça s'échange. Enfin, il y a un lien qui se crée entre les gens, et puis il y a un lien qui se crée avec les groupes, avec la compagnie, tout ça. Ils suivent les projets, ils viennent au concert. Des fois, on les invite au concert Transcabar quand c'est possible pour venir chanter des morceaux avec nous.
Oui, on avait vu ça aussi.
Voilà.
Ouais. Donc, c'est vraiment encore une fois l'implantation locale à Montreuil. Quoi. Et peut-être on peut parler de Transcabar. Allez, ça y est. Là. Vous venez de sortir un EP, on dit, je sais pas quoi, un disque avec peu de morceaux, je sais pas.
Ouais, c'est un EP, c'est ça.
Un EP, hein, c'est ça. Ouais. Et alors, moi, j'ai tous les morceaux, je les connaissais en fait, parce que vous les jouez en concert.
Oui.
Et alors, pourquoi ils n'ont pas été dans Maligacé?
Parce que pour des raisons, pour plusieurs raisons, des raisons techniques, c'est-à-dire que le vinyle, c'est 40 minutes. Oui, l'idée, c'était de faire une édition vinyle. Qu'on voulait la même édition CD et vinyle, on ne voulait pas que ça change en fait. Que le deuxième truc, c'est que moi j'aime les disques courts, les disques trop longs, je décroche. Ouais. Donc j'aimais bien ce format de 40 minutes. C'était une question de temps aussi, parce qu'il y avait plus de morceaux à mixer, à éditer, à masteriser, qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Et puis des questions d'argent aussi, parce que ça coûte plus cher de faire. Du coup, là, on a pris un temps décalé pour sortir ces morceaux qu'on avait envie de sortir, qu'on joue effectivement en live, mais qui font partie de la même session que l'album. On les a enregistrés dans la même session.
C'est vrai.
Et donc, on a pris un peu de temps pour les mixer et pour les sortir après l'album, quoi.
Ouais. Et alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait des nouvelles compositions. des nouveaux morceaux en préparation.
Il y a des nouveaux morceaux en préparation qu'on a enregistrés une semaine à Durance, à Château Arnoux,
en novembre.
Au mois de novembre.
Donc un album à venir.
Ouais, un album. On a enregistré beaucoup de musique parce que du coup on a passé beaucoup de temps. Faut qu'on dérush un peu tout ça. Ouais. Là, mais ouais, dans l'idée, il y a un album qui va sortir dans un an, deux ans peut-être. Mais...
Oh,
d'accord. On prend un peu de temps.
Mais alors, est-ce que vous êtes des nouvelles compositions? Donc, est-ce que c'est toujours sur ce répertoire traditionnel Maloya ou... Parce qu'on en avait parlé là, quand vous étiez venu de ça. Ou est-ce que ce sont des créations tout à fait originales?
Eh ben, là, il y a... Il y a des morceaux qui font partie du répertoire traditionnel, il n'y en a pas beaucoup. Et puis après, c'est des textes à Jean Didier, et puis de la musique qui est toujours originale, que ouais. Moi j'ai écrit derrière les textes de Jean Didier. Ouais. Donc il y a des nouvelles choses originales, et puis il y a aussi le côté où on puise dans le répertoire traditionnel. On essaie de rester dans la même esthétique. En essayant de trouver des nouvelles choses, des nouvelles voix pour le nouveau répertoire du groupe. Quoi.
Et est-ce que les nouvelles créations sont incorporées dans le set en concert encore?
Pas encore, parce qu'en fait, on n'a pas eu le temps. Ce qui s'est passé, c'est pour les nouveaux morceaux, généralement, on travaille par texto avec Jean Didier.
Ah ouais?
Ouais. Avec les téléphones, maintenant, on peut enregistrer vite fait.
Ah oui, d'accord.
Donc, moi, quand j'ai une idée de ligne de guitare, je l'enregistre et puis je lui envoie un texto. Et puis, il me dit « Ah, mais moi, ça, je chante ça dessus parce que ça, c'est bien. » Et on s'échange comme ça. Ou alors, on parle de choses dans le train. Et puis, on essaye des choses avec Théo et Yannick aux balances avant les concerts. Donc, en fait, on n'a jamais eu le temps de travailler réellement les morceaux. Et on a eu cette résidence à Durance. On a dit, oh, ok, super, on va essayer des nouveaux morceaux. Et puis, comme on a un peu de temps, bah, on peut les travailler, les enregistrer en même temps. Ouais. Donc, on a fait l'enregistrement. C'est vraiment frais. Enfin, il y a de la fraîcheur. En tout cas, c'est des morceaux qu'on n'a jamais joués. Et ça va être un autre temps de les travailler pour les mettre en live qu'on va commencer là, au mois de février au RACAM. On a une résidence. Après, on va prendre le temps d'intégrer les morceaux dans le live au fur et à mesure. Quoi.
Et alors, vous aviez clos le Festival des Oreilles Libres en juin, notre festival. Là. Et merci encore pour votre présence, votre générosité. Vous aviez joué 1h20, puisqu'on avait diffusé cet été le concert. Donc, j'avais repéré que ça faisait 1h20. Hein, c'est super. Mais alors, par contre, moi, je vous ai vu en Bretagne cet été. Et au bout de 45 minutes, les organisateurs du festival vous ont demandé d'arrêter. Et nous étions très, très frustrés. Moi, je crois que j'ai... crier quelques gros mots à l'adresse des organisateurs. Et non, c'est très frustrant.
Bah après, c'est des concerts où on nous dit c'est tant de temps. Ah, et comme il y a d'autres groupes qui arrivent derrière, c'est des soirées où il y a une grosse programmation.
Ah, ouais.
Et qui est assez cadrée au niveau du timing en fait, dans les festivals. Donc on nous dit c'est tant de temps et on vous fait signe quand il faut s'arrêter. Quoi.
Ah, c'est ça, d'accord.
Donc il y a des fois où il y a 45 minutes de prévu, des fois il y a 1h30, des fois il y a... Enfin, ça dépend des concerts... De ce qu'on nous demande en fait de jouer.
Et alors vous avez eu un petit peu de notoriété avec Transcabar. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous avez eu des expériences marrantes, des trucs rigolos ou...
Bah les trucs rigolos, ouais, on en a fait pas mal. Surtout au début, les tournées roots, comme on les appelle là.
Ouais, mais du coup, ce qui est arrivé après.
Et ce qui est arrivé après,
on voyage un peu. On est allé aux Canaries, tu vois. Ah ouais.
Super. Et puis c'est devenu vraiment confort du coup.
Ouais,
voyage en train, on dort à l'hôtel. Bon,
la belle vie, tu vois.
C'est super.
Non, mais je crois qu'il voulait du croustillant. Il voulait aller...
c'est pas ça. Que...
les dossiers.
Non.
Et alors, il y a sur le EP, il y a plusieurs versions. Il y a les versions courtes et les versions longues, je crois, de certains morceaux.
Oui. Parce qu'on veut rentrer dans les playlists, quoi.
Mais c'est ça. Ouais. Bah, nous, on va se permettre, si vous voulez bien, de passer les versions longues.
Yes.
Parfait.
Mais je sais plus, alors, c'est lequel morceau qu'on va écouter?
Ticré à moi un an.
Très bien.
Amen. maman. La mise à ma la peau passer mi va retra son polisson y'a main. Papa la bande ou non moins, on tout s'arrête mon maman. La mise à ma la peau passer mi va retra man y'a polisson y'a main. Lé 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 lé. Mais en fin
Voilà, c'était Transcabar, la version longue. Et alors peut-être pour terminer, on va vous demander, Théo, j'ai lu sur le réseau, tu sais, Bleu avec le pouce, là, que tu avais des créations dont tu étais à l'origine, Mob, Queue et Contrebasse, qui allait être, qui a été faite là, bientôt à l'atelier du plateau. Peux-tu en dire plus?
Ah ben ouais, tout à fait. Mob, Queue, c'est donc c'est avec Sophia de Monsi, super pianiste que j'ai rencontré il y a quelques années et avec qui j'avais envie de faire quelque chose. Et avec Nick Lyons, qui est un saxophoniste alto qui habite à Brooklyn et que j'ai rencontré par l'intermédiaire de Macha Garibian. Voilà, il y a quelques années aussi. Et pareil, on avait tchatché un peu, improvisé, et puis je voulais qu'il se passe quelque chose. Donc là, ça commence. Voilà, ça se met en route. Mmh. Et puis contrebasse au pluriel, c'est pareil, une idée comme ça. J'ai vu une création à l'atelier du plateau il y a l'an dernier, des Vibrants Défricheurs, super, super collectif de Rouen. Et je me suis dit, oh mais là, si je mettais deux, trois contrebasses là-dedans, là, c'est ce lieu qui résonne vraiment de manière magique, ça pourrait être super. Mmh. Donc là, je suis en train d'écrire la musique pour ça, avec Olivia Schemama, que je ne connais pas encore, et Louis Prado, que je connais, mais pas musicalement. Donc c'est aussi ça que j'ai envie, c'est rencontrer
des nouvelles personnes. Olivia, on la connaît bien, nous aussi. Ouais. Elle est venue nous voir. Mmh. Oui, puis Louis Prado, j'espère qu'on l'aura un jour aussi, du collectif 2035.
Ouais.
Il y a d'autres collaborations à venir, je crois, aussi, dont tu n'étais pas forcément à le...
Pour moi, tu veux dire, me concernant avec notamment Boris Boublil, là, qui monte un grand groupe, qui est un peu tiré de son projet Blind Seats. Donc là, c'est un grand orchestre, donc je ne me rappelle plus de tout le, voilà, toute la distribution, mais qui va être vraiment, vraiment super. Et puis aussi le groupe de Manuel Bienvenu, qui est un chanteur, avec un disque qui s'appelle Glow, qui va sortir en mai, là, on joue au voûte. Ouais. On fait un coplateau avec Ebul et Glow, qui jouera deux fois, une belle soirée. Ouais. Et puis j'écris de la musique pour une pièce qui s'appelle Brume et qui va être créée, je pense, dans une petite année. Voilà, pièce de Sandrine Nicolas et de la compagnie Éco Tangible.
D'accord.
Voilà.
Stéphane.
Eh ben, moi, je vais écrire de la musique pour un quintet avec deux saxophones ténors, contrebasse, guitare et batterie, autour du Maloya aussi. Mmh. Autour des tournes du Maloya, tout ça, mais quelque chose d'assez jazz et trance, enfin très, très instrumental.
D'accord.
Et on va enregistrer au mois d'avril à Durance, justement. Mmh.
Est-ce que vous avez votre agenda avec tous les concerts, les sorties de disques et tout ça?
Sortie de disques, c'est toi un peu qui as ça en tête, Stéphane?
Sortie de disques...
En fait, on n'a pas de date pour l'instant.
On n'a pas encore de date, on a des projets. Mmh. Il y a Pensée Rotative, le live à Durance.
À Coutances.
À Coutances,
ouais.
Voilà. Il y a Transcabar, Sibiel. Ouais. Peut-être un nouveau groupe de pop qui n'a pas encore de nom, mais qu'on a découvert et qu'on aimerait bien sortir.
Ouais.
Et puis Ostrakinda, le trio d'Olivier Letté. Ça, c'est les projections qui vont sortir entre un à deux ans. Quoi.
D'accord.
Voilà.
Et les concerts?
Les concerts, bah, une belle tournée de Transcabar. Alors, pour se rappeler des dates, il y en a pas mal.
On commence en février, le premier au Racam à Brétigny-sur-Orge.
Ouais.
En région Paris. Après, on part dans le sud, à Rodez, à Aurillac, et puis à Toulouse. Et puis, on revient au comptoir, à Fontenay-sous-Bois, le 27 février.
Ça, c'est février, tout
27 février, Et puis, j'ai vu que vous allez être à Saint-Claude également.
Ouais,
27 juin. À la fraternelle,
Bon. Et on verra, on va faire une émission sur Saint-Claude. Et on verra ça. Et puis, alors, donc, cette soirée qui sera reportée, les 10 ans du label.
Voilà. Les 10 ans. On a l'année pour la faire.
Pour faire les 10 ans. On a tout 2020, ça va.
Vous nous tiendrez au courant. Et ben moi, j'ai quelques annonces concernant Publico. Dimanche 19 janvier à 16h30, projection Légion étrangère. Alors, c'est un film sur la Légion étrangère, mais je cite, notre objectif en organisant cette projection est de réfléchir ensemble à de réelles stratégies pour anéantir la Légion étrangère. Et avec elle, l'armée française tout entière. Nous, anarchistes, refusons en effet la guerre et le nationalisme. Hein. C'est pas pour dire du bien de la Légion étrangère, c'est pour la conchier, comme dirait, comme disait Aragon. Le mercredi 22 janvier à 20h, Félix Fénéon, anarchiste et critique d'art, présentation par Gilles Bounour. Félix Fénéon, 1824-1894, s'engagea dans le mouvement libertaire dès 1886. et collabora à de nombreux journaux anarchistes. Fénéon fut l'un des premiers parisiens, avec Dorin, Vlaminck et Matisse, puis Picasso, Apollinaire et enfin Breton, à s'intéresser vers 1904-5 aux objets exotiques, entre guillemets. Donc c'est mercredi 22 janvier à 20h et c'est bien sûr à la librairie Publico 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Nous, la semaine prochaine, nous diffuserons enfin l'interview que nous avons réalisée il y a quelques mois, quelques années, même ça commence maintenant, avec Andrew Lamb, le saxophoniste de Chicago, en compagnie de notre copain Benjamin Sanz, qui nous l'avait présenté, qui nous l'avait amené, et avec qui ils avaient joué. Donc on diffusera aussi un extrait de leur concert, c'est la semaine prochaine. Et puis on va se quitter avec Chasseur. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit mot de cette formation?
Chasseur, c'est la rencontre que j'ai faite avec Adama Koulibaly, chasseur malien, par le Festival Africolor à l'époque, c'était il y a une petite dizaine d'années, quoi. Et donc c'est avec Macha Garibian au clavier, au chant, et Seb Brun à la batterie. Voilà.
Très bien. Merci à vous deux. Merci beaucoup d'être venus nous voir. Notre ami Henrik, si présent, diffusera cette nuit à partir de minuit le fameux concert 12h21, 21h12, c'est-à-dire 8h51 de musique non-stop qui était organisé il y a le 21 décembre à Montreuil, aux Instants Chavirés, à la Halle Bouchoul. Et on devait les recevoir la veille et on n'a pas pu à cause du gouvernement qui s'entête à maintenir son projet de réforme. Voilà, ce qui occasionne la grève légitime des travailleurs. Donc ce sera cette nuit dans l'émission Radio X de Henrik. Merci Patricia pour la technique et merci à nos invités. Dans quelques instants, Ulysse, enfin de retour dans nos studios. Qui nous parlera de François Villon. À la semaine prochaine, salut.